Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est vers la Chine que je vous propose aujourd'hui de tourner vos regards, et plus précisément vers un penseur chinois du XVIIe siècle, Wang Fuzhi. Mais rassurez-vous, pour évoquer ce personnage incontournable dans l'histoire de la philosophie chinoise, mais il faut l'avouer, peu connu dans notre monde occidental, nous sommes accompagnés par le meilleur guide qui soit, Monsieur Jacques Gernet, qui a publié chez Gallimard en 2005 un essai sur la philosophie de Wang Fuzhi, essai intitulé « La raison des choses ». Monsieur Gernet, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Pour vous présenter brièvement, je rappellerai que vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous avez été élu le 8 juin 1979 au fauteuil de Paul de Miéville, lequel fut lui aussi éminent sinologue spécialiste du bouddhisme chinois et japonais. Et à la mort de ce grand maître, qui après Maspero avait dominé les études chinoises en France, eh bien c'est vous, Jacques Gernet, qui lui succédez. Je dirais aussi que vous avez été membre de l'École française d'Extrême-Orient, professeur à l'École pratique des hautes études, professeur d'université à la Sorbonne et à Paris 7, l'université Denis Diderot, où vous avez fondé et diriger l'UER de langue et civilisation de l'Asie orientale. Et enfin, que vous avez, de 1975 à 1992, durant 17 années donc, tenu la chaire d'histoire sociale et intellectuelle de la Chine au Collège de France, Collège de France dont vous êtes aujourd'hui et depuis 1992 professeur honoraire. Je voudrais seulement préciser à nos auditeurs internautes que pour connaître les œuvres et les principales publications de Jacques Gernet, qui sont extrêmement nombreuses, il leur faut se reporter sur le site de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, aibl.fr, ou sur le site du Collège de France, Collège de France, avec des tirets entre les deux, .fr. Des liens seront établis vers ces deux sites à partir du site de Canal Académie. Monsieur Gernet, abordons maintenant le personnage si important et si peu connu, du moins avant la publication de votre essai « La raison des choses » consacré à ce philosophe Wang Fuzhi. Vous le considérez comme le plus éminent penseur de son époque et il a laissé une œuvre que vous qualifiez de « difficile » et volumineuse. Monsieur Gernet, les auteurs sont-ils facilement accessibles, les auteurs chinois
absolument,
anciens?
Absolument pas.
Pas?
Absolument pas. Les auteurs d'il y a plusieurs siècles ne sont pas facilement accessibles parce que le chinois n'est pas une langue facile, d'abord, mais ensuite, la lecture d'un texte chinois implique toutes sortes de connaissances de tous ordres, historiques, géographiques et autres. Et ça implique toute une culture qu'il faut acquérir. Donc, beaucoup de temps.
Alors, Wang Fuzhi, lui particulièrement, il a vécu à quelle époque? Présentez-nous ce personnage.
J'aimerais bien y venir après une petite remarque.
Oui.
Sur une double erreur qui est faite par le grand public. D'abord, l'idée que la Chine est un monde immobile, ce qui est absolument faux. Et que la pensée chinoise est une pensée éternelle. Il n'y a pas de pensée chinoise éternelle. Elle s'est renouvelée, s'est modifiée. Il y a eu des ruptures, des retours en arrière et des idées plus anciennes qui ont été reprises dans des contextes différents.
Donc la pensée chinoise, c'est une mauvaise expression en fait.
Bien sûr, il n'y a pas de
pensée chinoise. C'est les pensées chinoises, les courants de pensée.
Ce serait aussi simpliste de dire qu'il y a une pensée occidentale.
Voilà.
Il n'y a pas de pensée occidentale. Si on prend Kant ou bien Descartes ou Platon,
ce sont des courants et des écoles différentes.
Des idées, des personnages, des conceptions complètement différentes. Eh bien, il en est de même pour la Chine. Il y a même, je pourrais dire qu'il y a différentes rationalités qui se sont succédées au cours de l'histoire, comme en Europe, dans le monde chinois.
Alors Wang Fuzhi, lui, il vivait à quelle époque?
Wang Fuzhi naît en 1619 dans une des régions les plus déshéritées de la Chine, enfin une région tout à fait extérieure, enfin très lointaine, dans le sud-ouest de la Chine, le Hunan, qui est au sud du fleuve Yangtze, et il est mort en 1692.
Donc 17e siècle.
17e siècle, qui est un des siècles les plus intéressants du point de vue de l'histoire intellectuelle de la Chine. La période qu'il a vécue a été l'une des plus tragiques et les plus douloureuses de l'histoire de la Chine, parce que d'abord, c'est le déclin de la dynastie des nationales des Ming, et avec de très nombreuses disputes de clans, une puissance terrifiante des eunuques et de leur police politique. Wang Fuzhe n'appartenait pas à une famille, vraiment une grande famille lettrée, mais son père était, depuis plusieurs années, sa famille était s'intéressée à l'histoire de la culture classique. Et Wang Fuzhe lui-même s'était orienté dans cette voie avec l'idée de passer des concours. Mais il a été arrêté en route par les très grandes rébellions populaires qui se déchaînaient en Chine à ce moment-là.
Ça l'a beaucoup interrogé, ces événements, ce basculement de dynastie.
Ce basculement de dynastie est très important et très grave dans l'histoire de la Chine. À mon avis, les Mandchous ont corrompu la Chine, ont transformé la Chine radicalement, ont amené une pudibonderie qui n'existait pas avant, et aussi une restriction de la pensée qui a été dommageable. Wang Fuzhe a participé dans sa jeunesse à des cercles politiques. Il a lutté contre les Mandchous, organisé des petites équipes de résistants, et puis il s'est même mis au service de la dynastie des Ming du Sud, qui ont résisté pendant longtemps, puisque les Mandchous sont entrés à Pékin en 1644, mais le dernier empereur des Ming est assassiné à Kunming, au Yunnan, en 1662. Vous voyez, et en plus, par la suite, il y aura des rébellions contre les Mandchous.
Donc il est un résistant à la dynastie Mandchou.
Absolument.
Alors que reproche-t-il à cette dynastie donc?
Ah bien, pour lui, c'est la fin du monde. La fin du monde parce que c'est la fin de la dynastie nationale, mais c'est aussi l'arrivée au pouvoir, l'installation au pouvoir de gens de la steppe. Ce sont les Mandchous sont originaires du sud de la Mandchourie, ce que nous appelons la Mandchourie, qui est aujourd'hui le nord-est de la Chine, les provinces du nord-est.
Ce sont des nomades, des marchands, ce ne sont pas du tout des lettrés.
Surtout des éleveurs nomades, mais aussi des chasseurs. Enfin, des gens qui menaient une vie complètement différente de celle des Chinois, qui avaient des conceptions tout à fait autres, mais qui se sont mis à la culture chinoise, ont voulu se faire bien voir des élites chinoises pour avoir leur collaboration. Alors, ce que je crois très important, c'est qu'on ne peut pas comprendre Wang Fuzhe si on l'isole de son époque, et
oui,
des drames de son époque, de sa résistance aux Mandchous, de son milieu familial aussi. Donc, il est indispensable de connaître sa vie, qu'il a dû abandonner à partir d'un certain moment, voyant que la lutte était impossible, il a dû abandonner toute résistance, et il s'est réfugié dans les montagnes de son Hunan natal, dans le sud du Hunan, et dans le sud-ouest de la Chine, donc, de lieu en lieu pour échapper à la police mandchoue, car il avait gardé les cheveux longs, ce qui était tout à fait interdit par les Mandchous, qui ont été féroces à l'égard de toutes les villes qui ont voulu, où on n'a pas voulu accepter le port de la natte.
Ah, c'est eux qui avaient institué.
Typiquement nomade.
Absolument. Nomades. Et dans votre livre, vous dites que Wang s'est interrogé sur les causes de ce désastre, de cet effondrement,
oui,
de sa culture et de sa civilisation, en fait, à cause de l'égoïsme du pouvoir impérial.
Il y a ça. L'égoïsme du pouvoir impérial. Il y a aussi le rôle qu'ont joué, ça peut nous paraître étrange, le rôle qu'ont joué les courants intellectuels de l'époque.
Voilà, alors il n'a pas l'air de les aimer beaucoup, ces courants Wangtze.
Ces courants sont dominés par une sorte de laisser-aller, de fatalisme, qui est très bouddhiste en fait, et aussi taoïste, car le taoïsme a reçu beaucoup d'influence bouddhique. Mais il y a aussi cette idée qu'il peut y avoir une sorte de principe supérieur, c'est la thèse qui est la thèse dominante des milieux lettrés, qui est l'idée d'une organisation métier n'a pas de rapport avec le monde que nous voyons, le monde sensible. Oui, c'est une idée que Wang Fuzhou rejette
Complètement, voilà. Donc il est contre le bouddhisme, contre le taoïsme et contre même la tradition lettrée qui dit qu'il y a un principe dominant extérieur à la réalité. Alors, la première critique de Wang Fuzhou, c'est contre le langage. Il dit « les mots nous cachent la réalité ». Alors, qu'est-ce qu'il a contre le langage?
Oui.
Il l'utilise tout de même.
Il l'utilise, bien sûr. Il l'utilise même dans un style admirable et avec une capacité de logique, d'art, de la controverse qui est tout à fait extraordinaire.
Mais il met
sa science du langage au service de sa haine des envahisseurs, de sa haine de la lâcheté de grande partie des classes dirigeantes qui ont opté pour la collaboration avec les Mandchous, et aussi au service de ces courants dominants au XVIe siècle et encore dominants dans sa jeunesse. Donc, pourquoi le langage est un aspect important de sa philosophie? C'est qu'il est philosophe, mais il est philosophe, on pourrait dire, à l'inverse de notre tradition. Puisque toute notre philosophie est fondée sur le langage depuis les Grecs, et elle est fondée encore aujourd'hui sur le langage. Et Wang Fuzhou prend un soin particulier à distinguer ce qui est tout à fait naturel et tout ce qui est artificiel, tout ce qui implique une intervention humaine. Or, le langage est précisément un artifice humain. Donc, il le rejette du point de vue philosophique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'en sert pas lui-même.
Bien entendu.
Voilà.
Mais il dit que ce que dit le langage, c'est-à-dire la réalité, ne peut pas être entièrement saisie par le langage. C'est bien cela.
Non, les choses ne sont pas accessibles par le langage parce que, il prend l'exemple d'un arbre où on trouve des dizaines de milliers de feuilles, il n'y en a pas une qui soit semblable à une autre. Donc, ni les noms, ni les mots, ni les nombres ne peuvent nous servir à rien dans un cas comme ça.
Donc la réalité est difficile à saisir, c'est bien
ça. Elle est absolument insaisissable. Et ce n'est pas de ce côté-là que se tourne Wang Fuzhou. Son idée, c'est de trouver des modes de fonctionnement que l'on retrouve dans différents domaines. Un petit peu comme chez les mathématiciens chinois, c'est-à-dire qu'il y a une série de problèmes qui peuvent être résolus qui relèvent des mêmes solutions mathématiques.
Alors expliquez-nous un petit peu, là, Jacques Gernet, parce que c'est un peu compliqué.
C'est une idée qui a été très difficile à conquérir. C'est l'idée que des problèmes isomorphes, c'est-à-dire qui se présentent sous la même forme, sont en réalité justiciables des mêmes types de calculs numériques. Et ces problèmes sont tout à fait différents les uns des autres. C'est une chose qui est tout à fait remarquable, qui est très nouveau dans l'histoire des mathématiques. Mais Wang Fuzhou procède un peu de la même façon. C'est-à-dire que les questions physiques, les questions problèmes humains, les problèmes de société, tout ça peut relever des mêmes formes de mode de fonctionnement. C'est pour nous quelque chose d'assez surprenant.
Oui, absolument. C'est tellement surprenant qu'on va marquer une petite pause, Jacques Gernet, et qu'on va se retrouver dans un instant pour étudier une autre notion qui est développée par Wang Fuzhou, qui est la notion de la complémentarité.
Pourquoi la musique de Mozart est-elle tout à fait accessible à tout cœur humain? Gilles Cantagrel, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, est venu présenter une communication sur Mozart le 22 mars 2006 devant les membres de l'Académie. À travers les manuscrits du célèbre compositeur, Gilles Cantagrel vous propose de découvrir, selon ses mots, quel fut le tempo de la vie du célèbre compositeur dont la brièveté souligne le génie miraculeux. Retrouvez Gilles Cantagrel dans l'émission En séance.
Retour dans notre studio avec Jacques Gernet, sinologue, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, avec lequel nous découvrons un penseur chinois de première importance, mais peu connu dans notre monde occidental, Wang Fuzhou. Alors, Monsieur Gernet, qu'est-ce que la notion de complémentarité chez Wang? Vous dites qu'elle est fondamentale. Alors, expliquez-nous en quoi.
Il y a quelque chose, je ne suis pas du tout philosophe. Je me suis intéressé à Wang Fuzhou après m'être intéressé aux difficultés de compréhension entre Chinois et missionnaires aux environs de 1600 et au XVIIe siècle.
À l'époque des jésuites et du père Ricci, en effet.
Jésuites, spécialement le père Ricci, qui a été un des grands... des premiers, des fondateurs,
propagateurs,
fondateurs de la première mission jésuite. Et alors on s'aperçoit que le père Ricci, qui a écrit un grand ouvrage pour contrer les idées chinoises, fait appel à toutes les catégories de la scolastique médiévale qu'il avait apprise à Rome.
Bien sûr.
Et c'est pour eux, pour les Chinois, c'est absolument incompréhensible.
Ça veut dire qu'il y a une incompréhension entre le discours philosophique occidental et Wang Fuchi, par exemple.
Parce que Wang Fuchi fait appel donc à tout cet attirail de la scolastique médiévale et il procède par opposition radicale entre animé, inanimé, sensible, insensible, organique, inorganique, mobile, immobile, etc.
Visible, invisible,
et puis,
etc.
C'est les quatre causes d'Aristote, etc., etc.
Donc lui, il n'est totalement pas dans cette pensée.
C'est-à-dire
de...
que les Chinois ne comprennent pas, parce que.
De causalité, par exemple.
Un des aspects très importants pour lui, c'est la différence entre l'attribut et la substance. Or, l'attribut et la substance sont quelque chose de très facile à comprendre pour un occidental qui a une langue, qui se sert d'une langue où précisément on trouve des adjectifs et des substantifs. Mais comme en chinois, tous les mots peuvent servir à n'importe quelle fonction, c'est-à-dire qu'un mot peut être verbe, adverbe, nom, ce
donc
ce
on ne peut pas accéder
tout
à cette
de la place qu'il a dans la,
compréhension.
Dans un texte, à l'intérieur d'une phrase. Il y a d'autres langues de ce type. Donc le chinois ne fait pas exception. C'est pas extraordinaire.
Alors la complémentarité, c'est quoi la notion de complémentarité? C'est-à-dire que les opposés et les contraires ne font qu'un.
C'est ça. C'est l'idée que, d'abord, les divisions que le langage nous oblige à nous permettre d'instaurer dans le monde, n'ont que des fonctions n'ont de valeur que pour l'homme, mais du point de vue de la nature, elles ne signifient rien. C'est nous qui distinguons un après, un avant, un est, un ouest, etc. Mais dans l'univers, ça ne veut rien dire.
Ah, peut-être ici, je pourrais lire le passage que Wang écrit en effet à ce sujet. L'homme distingue les quatre points cardinaux afin de se repérer par rapport à ce qu'il a devant ou derrière lui. Il se conforme à la distinction du passé et du présent, du commencement et de la fin pour donner un ordre à ce qu'il voit et à ce qu'il entend. Mais du point de vue du principe d'organisation spontanée, Li, alors vous allez nous expliquer ce que c'est, du point de vue des énergies invisibles, il n'est pas vrai qu'il y ait un avant et un après. Dans l'absence de toute orientation temporelle ou spatiale du chaos dans lequel le principe d'organisation dirige les énergies, le commencement est aussi la fin, le créé est aussi l'origine du créé, et ce qui est au repos est aussi ce qui circule, et ce qui sépare est aussi ce qui unit. Il n'y a rien qui ne commence, rien qui ne soit achevé. Alors Jacques Gernet, c'est quoi pour Wang Fuchi ce principe d'organisation?
Je crois que là vous tombez, vous introduisez des notions qu'il faudrait expliquer,
qui sont indispensables.
D'abord, il n'y a pas en chinois, je n'ai pas arrivé à trouver de mots qui correspondent exactement à ce que notre notion de matière. La seule idée qu'il y ait, c'est l'idée de souffle, de flux, d'influx, qu'on retrouve d'ailleurs dans la langue moderne. Par exemple, l'électricité, c'est du souffle, du qi, c'est-à-dire un influx.
Mais ce n'est pas une matière, en effet.
Ce n'est pas de la matière. J'ai traduit par énergie, je crois que c'est le meilleur terme. Et je crois que la traduction des Américains et des Anglais par energy matter n'est pas bonne. Je crois qu'effectivement, il s'agit... Parce que sous sa forme la plus fine et la plus déliée, cette énergie est esprit, devient l'esprit. C'est-à-dire que la matière, c'est une sorte de condensé de lit de l'esprit. C'est-à-dire un mouvement inverse de notre conception. Et puis alors, cette énergie nous est invisible. Elle est partout dans le monde. Elle ne devient visible pour nous qu'à partir du moment où elle se coagule, se combine pour former des êtres.
et que nos sens peuvent capter cela. Mais il y a donc plein de choses réelles qui existent que nos sens ne captent pas.
Exactement.
C'est ça qu'il veut dire.
C'est-à-dire qu'il y a l'énergie invisible. L'énergie est toujours invisible.
Toujours invisible,
mais
sauf...
elle se combine en yin et yang, c'est-à-dire positif et négatif, si vous voulez.
Oui.
Pour simplifier les choses. Pour créer tout ce que nous voyons, pouvons toucher, pouvons, tout ce qui est pour nous le sensible. Et d'autre part, il y a cette autre notion qui est l'idée qu'il y a un principe d'organisation spontanée qui fait que cette énergie se constitue pour former des êtres qui sont toujours provisoires, qui sont toujours destinés à disparaître. Même notre univers est destiné à disparaître. Tout est destiné à disparaître. Les montagnes, les fleuves, tout est provisoire. Notre Terre elle-même et le Soleil, tout ça.
Donc c'est ce principe spontané d'organisation qui assure la formation du vivant, quand il a une cohérence.
C'est une conception tout à fait anti-chrétienne et
anti-créationniste.
Tout à fait anti-créationniste, c'est spontané.
On comprend d'ailleurs que les gens chinois avec de telles pensées ne pouvaient pas accepter la philosophie occidentale telle que le père Ricci, par exemple, la proposait.
Certains l'ont accepté, mais peut-être... faisant des erreurs, je ne sais pas. Il y a eu des convertis chinois. Alors,
bien sûr, bien sûr.
Ils ont compris plus ou moins.
Alors, pour résumer, pour Wang Fuchi, la vie, la nature, l'être humain, la société, tout, c'est une question de... Ce n'est pas une question d'organisation, c'est une organisation des énergies.
Absolument. Provisoire, qui ne cesse de se transformer. C'est-à-dire que l'invisible, par rapport au visible... et ce qui se développe progressivement pour prendre la place du visible dans les conceptions des mutations. C'est le livre des mutations qui a beaucoup inspiré...
C'est le fameux Yi Qing, c'est ça.
C'est
le fameux Yi Qing. Mais on ne va peut-être pas rentrer dans la description du Yi Qing. C'est un peu compliqué. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour Wang Fuzhi, il y a donc une réalité qui est invisible à nos sens et à nos yeux, imperceptible, inaudible, mais qui n'en est pas moins une réalité et qu'elle obéit au même principe d'organisation que la réalité. C'est bien ça?
C'est-à-dire que, prenons l'exemple des êtres vivants.
Oui.
Quand un être vivant se forme, on voit apparaître le principe d'organisation qui se marque par des dessins réguliers, une forme d'organisation proprement dit. Et c'est ça qui est la preuve qu'il existe un principe d'organisation.
Voilà. Mais ce n'est pas un principe de création, c'est
non.
ça
hein? Non, puisque c'est spontané.
Donc, quelle est la place du hasard et de l'ordre
Elle est capitale. La place du hasard est capitale. Et elle n'est pas du tout contradictoire avec l'idée d'ordre. C'est une des grandes conquêtes de la science contemporaine que l'idée d'ordre et l'idée de hasard sont coexistantes dans tout l'univers. Prenons l'exemple des individus, des hommes. Tous les hommes se ressemblent, sont faits sur le même modèle, et en même temps, il n'y en a aucun qui soit exactement semblable à un autre. C'est ce que dit la biologie actuelle.
Oui, absolument. La génétique, en tout cas, oui,
la
c'est sûr.
Oui.
Mais Wang Fuzhi, au XVIIe siècle, avait raisonnements de ce genre.
Oui, on peut dire même qu'on peut remonter beaucoup plus haut, puisque celui qu'il considère comme son grand maître, c'est quelqu'un qui a vécu 6 siècles en avant.
Alors, qui est-ce?
C'est Zhang Zai, un homme de Zhang Zai.
Qui lui aussi développe cette idée.
Beaucoup d'idées de Wang Fuzhi viennent de Zhang Zai.
Vous avez étudié cette filiation des idées d'un élève sur son maître aussi.
J'avais cité un texte qui était intéressant. Vide et plein, mouvement et repos, assemblage et dissociation ne peuvent être séparés. Pourquoi ? Parce que le vide est plein d'énergie. Ce que nous croyons au repos est toujours inclus dans un mouvement qui l'emporte. L'univers visible n'est que le produit des combinaisons de deux énergies élémentaires et invisibles, et ces combinaisons sont condamnées à se dissocier tôt ou tard, pour faire retour à la masse constante de l'énergie universelle. De sorte, rien au monde n'échappe à ces allées et venues entre visible et invisible. C'est pour ça d'ailleurs que certains interprètes contemporains chinois, du temps du marxisme-léninisme, où il était tout puissant, ont qualifié Wang Fuzhe de matérialiste. En réalité, il n'est pas matérialiste parce qu'il refuse de séparer le sensible et l'insensible, le corporel et l'incorporel. Pour lui, ils sont complémentaires.
Il n'est pas matérialiste, mais il n'est pas non plus sensualiste, puisqu'il dit que nos sens sont incapables de créer la réalité aussi, ou de l'apercevoir même.
Notre esprit s'épuise dans l'infini, il n'arrive pas à le saisir.
Jacques Gernet, donc le monde ne cesse de changer, selon Wang Fuzhe, le monde de changer, de s'adapter. Il n'y a pas de nature humaine donc, qui soit fixée une fois pour toutes.
Oui, puisqu'elle se transforme sans arrêt.
Elle se transforme sans arrêt, mais en même temps, l'homme aussi est un produit de la société.
Oui.
Alors, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, donc c'est un peu difficile.
À notre sens, non.
À notre sens, non. Et alors, Wang Fuzhe fait une analyse. Il imagine très bien un très lointain passé où il n'y avait pas encore la culture. Oui. Alors là, je cite un passage de votre livre. Oui. « Les hommes, écrit-il, ne purent rien faire connaître de ce qui s'était passé avant eux, ni rien transmettre aux générations postérieures. Quand aucune règle n'existe, l'homme n'est alors qu'une bête qui se tient debout, émet un ronflement quand elle a faim. » Et jette ses restes de nourriture une fois rassasié. Mais ce qui vaut pour le plus lointain passé vaut aussi pour l'avenir. Un jour viendra, estime Wang, là c'est vous qui le dites, où la civilisation aura disparu. Alors, dit-il, les hommes reviendront tous à l'état de bête dans lequel ils étaient dans les temps les plus lointains. Quand ils en seront là, culture et écriture n'ayant plus cours, les connaissances ne laissant plus de témoignages, quand bien même il y aurait des yeux et des oreilles pour voir et pour entendre pendant les milliards d'années, rien ne permettra de garder des témoignages de ces époques. Ce ne sera plus que le chaos. Il n'est pas très optimiste, Wang Fuzhe. Alors, c'est parce que comme il n'y a pas de temps, comme il n'y a pas de... Tout ce qui s'est passé dans le passé peut revenir dans l'avenir, tout ça peut changer... On peut revenir aux états initiaux, mais ça peut disparaître aussi.
Oui, mais il n'y a pas du tout l'idée d'un temps cyclique. C'est pas du tout ça.
Non, c'est pas du tout
c'est
ça.
C'est au contraire
non.
L'idée d'un temps qui est une transformation perpétuelle. Il n'y a pas l'idée de progrès non plus.
Alors, et malgré cette absence d'idée de progrès, Jacques Gernet, dans votre ouvrage, vous soulignez les mots qui sont utilisés par Wang Fuzhe, qui sont des mots, je le rappelle, qu'il écrivait au XVIIe siècle. Répartition, dosage, fusion, nouage, écoulement, arrêt, principe d'organisation, énergie, ordre, hasard.
Ce sont les termes qu'il emploie pour expliquer la formation des êtres invisibles, des êtres vivants, qui évoquent tout à fait la biologie moléculaire.
Voilà, donc on lit du XVIIe siècle et on croirait lire des biologistes actuels ou même des mathématiciens actuels ou même des astrophysiciens.
C'est assez curieux. Oui.
Alors comment on explique un petit peu cette analogie de peut-être de vocabulaire, mais aussi peut-être de conception, de pensée?
Je crois qu'il y a quelque chose qui a été très important dans l'histoire des sciences, c'est que à partir des environs de 1930. Il y a eu une véritable révolution de la pensée scientifique qui a abandonné une conception traditionnelle qui était mécaniste et substantialiste. Et de sorte qu'il se trouve qu'il y a, non pas identité, mais des analogies plus ou moins vagues, plus ou moins étonnantes en tout cas, entre ce que dit Wang Fuzhe et ce que l'on trouve comme mode de raisonnement, je veux dire, simplement.
Absolument.
Chez les physiciens modernes, par exemple, le texte que vous avez cité tout à l'heure, ça évoque tout à fait l'idée de le monde infinitésimal n'obéit pas même loi que le monde visible.
Absolument. Les sciences contemporaines, elles considèrent comme naturelle la coexistence de l'ordre et du hasard. Il peut y avoir les deux.
C'est acquis, oui.
Et puis, bon, on admet aussi que des phénomènes de nature très différentes peuvent, au fond, avoir des mécanismes communs. Alors ça a intéressé beaucoup Wang Fuzhe, les mécanismes, c'est-à-dire la manière dont les choses s'organisent.
Exemple, dans le domaine de l'histoire, ce n'est pas les événements qui l'intéressent, c'est les mécanismes de l'histoire.
Voilà.
Quels sont les mécanismes qui ont provoquer telle et telle transformation.
Oui, évidemment. C'est d'ailleurs un peu comme l'histoire moderne qui s'intéresse moins aux événements, mais beaucoup plus aux causes des événements. Enfin, au sous-jacent, j'allais dire, ou à l'inconscient même, quelquefois. Et puis les sciences contemporaines, elles admettent bien sûr qu'il y a des énergies à un niveau très infinitésimal. Et c'est pas du tout... c'est aberrant pour nos perceptions, mais en vérité, ça existe.
Oui. Le physicien Schrödinger a même expliqué dans un texte que, au fond, il suffirait d'avoir deux éléments pour expliquer l'univers tout entier. Or, c'est ce que fait Wang Fuzhou. Il parle simplement de deux éléments positifs et négatifs qui sont nommés yin et yang, qui ont de très nombreux sens chinois. Et c'est un petit peu la même chose.
C'est un peu la même chose. Donc, entre Wang Fuzhou au XVIIe siècle et les auteurs très modernes dans les sciences contemporaines, vous considérez, Jacques Gernet, qu'il y a, au fond, des interrogations un peu analogues.
Voilà.
On ne peut pas dire que ce sont des réflexions similaires, mais c'est même analogique.
Des modes de pensée.
Des modes de pensée.
Oui.
Merci Jacques Gernet. Je voudrais rappeler que votre essai consacré à Wang Fuzhou s'intitule « La raison des choses », paru chez Gallimard en 2005 dans la collection Bibliothèque de philosophie dirigée par Marcel Gaucher. Merci de nous avoir fait entreapercevoir les thèmes philosophiques développés par Wang Fuzhou, qui reste, et je vous cite, « une personnalité d'exception dans la longue et diverse histoire de la pensée chinoise ».
Merci.